réplique « Quel est notre écrivain national ?» avec Régis Debray. Si l'on en croit Régis Debray, et comment ne pas croire sur parole l'auteur d'ouvrages aussi sérieux que Critique de la raison politique, le cours de médiologie générale ou Vie et mort de l'image, la présidence de la République a, en toute confidentialité, demandé récemment à la Société des gens de lettres d'organiser un scrutin parmi ses membres pour désigner notre écrivain national. C'est Stendhal qui est arrivé en tête, loin devant Victor Hugo. Ce classement a poussé Régis Debray à prendre la plume pour en déchiffrer le sens, pour dire qu'à l'encontre de ses éminents confrères, il choisissait, lui, l'auteur des Misérables, et pour livrer les raisons de cette préférence. Avant d'en venir à l'épineuse question du choix, je voudrais que nous nous arrêtions un moment sur le concept même d'écrivain national. Dans l'une de ses conversations avec Eckermann, Goethe tire de sa lecture d'un roman chinois la conclusion suivante. Le mot de littérature nationale ne signifie pas grand-chose aujourd'hui. Nous allons vers une époque de littérature universelle, Weltliteratur. Fin de citation. Cette époque n'est-elle pas advenue ? N'est-ce pas dans le grand contexte de la littérature mondiale que s'élabore et que doivent être jugées les œuvres capitales, et non dans le petit contexte de la nation. Régis Debray.
Je suis étonné de la phrase de Goethe, elle n'est pas très perspicace. Parce qu'au fond, le monde, c'est une somme de différences, et le monde ne vaut que par ses singularités différentielles. Et plus on se mondialise, comme on dit aujourd'hui, plus on a besoin d'écouter la différence, comme on dit parfois sur les radios. Autrement dit, on peut même dire que nous avons de plus en plus besoin d'écrivains nationaux, de dissonances, de différences, parce qu'au fond, le monde ne vaut que parce qu'on ne s'y ressemble pas. Et le curieux est que, pour savoir à quoi nous ressemblons, nous avons besoin de fréquenter des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est quand on est un peu dépaysé, exilé, que tout d'un coup, on découvre, tiens, être français, c'est pas exactement être britannique ou vénézuélien. Donc, je crois qu'on va au contraire de plus en plus vers des redécouvertes de nous-mêmes. Et j'en suis heureux.
Alors, je vais un instant essayer de prendre la défense du pauvre Goethe. Le concept de Weltliteratur a été repris par Thomas Mann et plus récemment par Milan Kundera. Il y a une citation de Kundera qui ouvre le livre de la fabrique de l'écrivain national d'Anne-Marie Thiès, qui paraît chez Gallimard d'ailleurs en même temps que le vôtre, Régis Debray. Voici ce qu'écrit Kundera, ou ce qu'il dit, parce que c'était un interview pour Le Monde des Livres. Ouvrez n'importe quel manuel, n'importe quelle anthologie. La littérature universelle y est toujours traitée comme une addition de littérature nationale, comme l'histoire des littératures au pluriel. Et pourtant, pour en rester au roman, Sterne était inspiré par Rabelais, Diderot par Sterne, Goethe par Diderot. Dès le début, la logique de l'évolution était supranationale. Voilà, c'est un écrivain qui parle.
Oui, et un excellent écrivain, notre ami Kundera, votre guide, et nous sommes d'accord là-dessus. Mais attendez, on s'aiguise en se frottant à l'autre, et on se frotte à l'autre parce qu'il ne nous ressemble pas. On a besoin des autres pour se découvrir soi-même, c'est évident. Mais c'est un jeu d'interaction, c'est un jeu, je dirais, de démarcation réciproque. Autrement dit, bien sûr que l'on va vers une littérature universelle à la condition qu'on n'oublie pas qu'il y a des littératures nationales.
Très bien. Alors, avant d'en arriver à l'opposition Stendhal-Goethe, et pour aller dans votre sens, je citerai le grand romaniste allemand Ernst Robert Curtius, qui a écrit sur la France en 1925. Et il dit ceci. La littérature joue un rôle capital dans la conscience que la France prend d'elle-même et de sa civilisation, et qu'aucune autre nation ne lui accorde une place comparable. L'Allemagne, notamment, insiste, dit Curtius, bien plus sur la musique. Mais alors, justement, Charles Dubos, qui était son ami, écrit ceci. Il existe un grand dialogue dont il nous faut souhaiter qu'il dure autant que notre race, car il s'en dégage la musique la plus compréhensive et la plus solennelle que le génie français ait fait rendre à l'instrument qui lui est propre, le dialogue Montaigne-Pascal. Un français est profond, dans la mesure où à son rang, il sait maintenir ce dialogue vivant en lui. Et Albert Thibaudet va plus loin, il dit que le français est dialogique, il vit sous la loi du couple. Montaigne et Pascal, mais aussi Bossuet et Fénelon, Corneille et Racine, Voltaire et Rousseau, Hugo et Lamartine, on pourrait dire Balzac et Stendhal. Et vous dites vous-même dans Le Figaro, Régis Debray, un interview que vous avez donné, l'inconscient collectif en France a toujours eu deux cordes à son arc. Alors ne voudrait-il pas dire que la France patrie littéraire, c'est, par exemple, en effet, Corneille et Racine, et que nous ne pouvons pas, en tant que Français, choisir un seul auteur. Ça va d'ailleurs jusqu'à Sartre et Camus.
Eh bien, disons que c'est le génie de la France. Voilà. Et aussi, c'est le génie, je dirais, des individus, je crois. C'est peut-être Hugo, d'ailleurs, lui-même, qui a dit que tout homme qui vaut est un système de contraste heureusement assemblé. D'accord. C'est le cas de Victor Hugo, parce que le propre du génie, c'est de joindre les contraires et de surmonter les contradictions. Et c'est le cas de la France. Donc, ça tombe bien, Hugo est, en ce sens, la France, parce que c'est l'homme de la synthèse. C'est pas l'homme, je dirais, de la généralité plate. C'est un homme qui ne choisit pas. C'est un homme qui donne toute leur chance à ses personnages. Et pourquoi j'aime Hugo en même temps que j'aime la France? Parce que Hugo ne condamne rien. Vous lisez Les Misérables, c'est en fait... Est-ce un éloge de Jean Valjean? Non, c'est aussi un éloge de Javert. Vous lisez 93, est-ce une condamnation des Vendéens? Non. C'est... l'exposé des contradictions de la France à un moment donné. Est-ce que la Commune, c'est abominable? Non, il dit, c'est une bonne chose mal faite. Qu'est-ce que c'est que la terreur? Ce sont les crimes de l'aurore. Autrement dit, il y a chez Victor Hugo la capacité, si vous voulez, de réunifier les deux catégories de Français que Marc Bloch opposait. Ceux qui vibrent à l'évocation du Sacre de Reims, et puis ceux qui vibrent à l'évocation de la fête de la Fédération. Victor Hugo embrasse les deux. Il s'efforce de comprendre les deux, de comprendre, c'est-à-dire de les prendre ensemble. Ce n'est pas un manichéen, et c'est pourquoi je trouve que, à une époque où on est vraiment très tenté par le blanc et le noir, lire Victor Hugo, je crois que ça peut apaiser les esprits, hein, pas de façon niaise, parce qu'il ne nie pas le conflit, il ne nie pas la contradiction, il l'assume. Mais il ne s'en tient pas là. Et ça, c'est très hegelien, Hugo, hein. Auf Eben. Bon, je m'excuse, je parle un peu philosophie, c'est pas convenable. Mais voilà. Donc, comprenez que, d'abord, il faut être hugolien dans cette affaire, c'est-à-dire ne pas opposer mécaniquement Stendhal et Hugo.
Vous le faites un peu, quand même.
Dans un exercice.
C'est pas mécanique.
Dans un exercice. C'est virtuose. Dans un exercice de composition française, dirait
oui,
Monard-Ozouf, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement deux lignées en France. Et elles sont bien forcées de s'accorder parce que, au fond, chacun de nous, il est un peu stendhalien, il est un peu hugolien. Ce que je veux dire simplement, c'est que Hugo est ce que nous avons de plus noble. Il faut s'agrandir pour lire Hugo. C'est-à-dire qu'Hugo, au fond, c'est vrai qu'il n'est pas de notre taille. En ce sens, on ne mérite pas Victor Hugo, pas plus qu'on ne mérite De Gaulle, si vous voulez. Ce sont des gens qui voient trop grand pour nous, qui sont de telle synthèse. Hugo est à l'échelle du monde entier. Hugo, disons, est l'un des premiers à admettre la vie extra-humaine pour les hommes, n'est-ce pas? Il est face à l'océan, face aux éléments. Vous êtes en haut de Villahausse, vous êtes dans le look-out. Hugo écrit face à la terre, face au ciel, face à la mer. C'est un homme qui a compris que le cosmos était là. Bon. Donc, il a une respiration, si vous voulez, une ouverture de compas extraordinaire. C'est pourquoi je dis c'est un homme d'univers, ce n'est pas un homme du monde. Ça dit, les hommes du monde, c'est très bien, c'est très, très amusant. Hein. Bon, c'est même piquant, étincelant, plein de verve. Mais enfin, c'est pas la même chose. Donc je crois que simplement qu'il faut admettre Stendhal, oui, mais garder une hiérarchie, voilà. Bon, il y a le grand et le moyen, si j'ose dire. Il y a l'univers... Et le monde, il y a l'Europe et la France. Enfin bref, je trouve que goûter, c'est comparer, comme disait l'autre, et je trouve qu'on goûte mieux l'un et l'autre en les comparant. Voilà.
Bien. je pensais qu'on allait commencer par Stendhal, mais nous commençons par Victor Hugo. Un mot quand même sur Montaigne, ou sur le dialogue Montaigne-Pascal. J'aime beaucoup cette phrase de Suran. Le drame de l'Allemagne est de n'avoir pas eu un Montaigne. Quelle chance pour la France d'avoir commencé par un sceptique. C'est très Suran, mais c'est très beau.
Attendez, vous pouvez dire que le même Suran a également une définition assez sévère de ce qu'il appelle l'esprit français, la perfection étroite.
Ah oui.
L'école de la mesure. Alors c'est vrai que ça inclut...
Mais d'un autre côté, il est devenu lui-même un grand écrivain français classique.
Tout à fait, et il a eu, lui, la chance de pouvoir comparer les esprits de différentes cultures, de différentes langues.
Pour aller dans votre sens, j'ai ici quelques phrases que j'ai déjà citées, mais que je trouve admirables, de L'homme qui rit de Victor Hugo. Parce que c'est vrai, Victor Hugo, c'est l'homme des antithèses, mais c'est aussi l'homme de la complexité. Et tout d'un coup, L'homme qui rit devient un lord. Il entre dans la chambre des lords, et là, tout d'un coup, il se demande ce qu'il doit faire. La complication de l'événement produit la perplexité de l'esprit. Où est désormais la ligne droite? Envers qui est le premier devoir? Est-ce envers ses proches? Est-ce envers le genre humain? Où aller? Sortir? Rester? Avancer? Reculer? Que faire? Et ces deux dernières phrases, vraiment extraordinaires, que le devoir est des carrefours, c'est étrange. La responsabilité peut être un labyrinthe. Voilà,
c'est admirable.
Régis Debray.
Victor Hugo est précisément l'homme, si vous voulez, qui sait unir le proche et le lointain, c'est-à-dire les tours de Notre-Dame et les égouts de Paris. C'est un homme, si vous voulez, qui va de haut en bas, de droite à gauche, qui embrasse très large et qui ne noie pas ça dans une sorte de moralisme un peu cucu. C'est un homme intense, mais c'est un homme généreux. Enfin, écoutez, nous sommes d'accord que on va pas revenir à statuer Hugo. Je crois qu'il faut débarrasser Hugo de sa statue. Il faut casser le buste et trouver un bonhomme. Très prémonitoire, au fond. On parle de Stendhal. Stendhal est un homme du XVIIIe siècle. Hugo est un homme du XXIe. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que d'abord, il est mondial, à la fois dans ses centres d'intérêt, dans l'écoute qu'il a de toutes les cultures du monde, dans le fait de répondre aussi bien aux Norvégiens qu'aux Chinois qu'aux Indiens. Enfin, il est présent à tout ce qui se passe. Et puis, c'est un homme qui a le sens de la nature, que nous sommes en train de redécouvrir, qui a le sens de l'animal, qui a le science, qui a le, je dirais, encore une fois, qui sait intégrer l'individu dans quelque chose qui le dépasse et qui est à la fois l'histoire de l'humanité et, je dirais, la nature elle-même. Je dirais vraiment là qu'il y a quelque chose de troublant. Et quand vous parliez du labyrinthe, son attitude envers la religion est extraordinaire. Il y a un poème qui s'appelle Religion, au singulier, virgule, religion avec un S. Il récuse les religions, il veut la religion. Et il a cette phrase admirable dans son testament. Je récuse les oraisons de toutes les églises, je demande une prière à toutes les âmes. Pourquoi Hugo est-il génial? Parce qu'il sait ce que beaucoup de gens ne savent pas, que la croyance populaire est à la fois stupide et profonde. Les crédules ont tort sans doute, mais à coup sûr les positifs n'ont pas raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hugo a compris la réponse à la phrase de Valéry, la fameuse phrase
oui.
« Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Hugo répond rien parce que pour lui, les absents sont présents et que nous avons besoin d'absence. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans Hauteville House, que je vous recommande, mon cher Alain, où sur 3 étages, ils ont pas seulement la photographie d'une âme, mais l'histoire d'une vie, c'est-à-dire c'est du cinéma. Et autour de la table de Victor Hugo, il y a un fauteuil sur lequel on n'a pas le droit de s'asseoir, sur lequel est écrit... Adsunt absentes, les absents sont présents, et ils déjeunent et ils dînent avec ses ancêtres, son père.
Son père.
Voilà. Son père est là. C'est-à-dire que, si vous voulez, il a conscience que les invisibles existent. Si on n'a pas conscience que les invisibles existent, on est foutu. On fait de l'économie, tout simplement. Bon, et ça, ça marche pas. Bon.
Oui, là je vous suis tout à fait. Cependant, je voudrais vous rappeler qu'un journal parisien, à la fin du siècle dernier, avait fait une enquête auprès de 30 personnalités appartenant à l'establishment intellectuel du moment. Journalistes, historiens, sociologues, éditeurs et quelques écrivains. Chacun devait citer par ordre alphabétique les 10 livres les plus remarquables de toute l'histoire de la France. C'est Kundera qui le rappelle dans son livre Le Rideau. Et il dit ceci, de cette compétition, Les Misérables de Victor Hugo sont sortis vainqueurs. Un écrivain étranger sera surpris, n'ayant jamais considéré ce livre comme important pour lui ni pour l'histoire de la littérature. Il comprendra sur le coup que la littérature française qu'il adore n'est pas celle qu'on adore en France. Mais pourquoi cette réticence de Kundera? Eh bien, pour les raisons que vous donnez, ou pour certaines des raisons que vous donnez d'aimer Victor Hugo, Régis Debray, dans votre livre du génie français. Vous dites de lui qu'il est le porte-parole des déshérités, qu'il dénonce les iniquités au nom de l'égalité. Et ça, effectivement, un écrivain d'Europe centrale ou de l'Est ne veut pas l'entendre parce que il a eu affaire, lui, à un État moralisateur et à une littérature moralisatrice. Et ce qu'il attend de la littérature, c'est que elle avance, en quelque sorte, dans la connaissance du monde humain. Et Kundera, dans Le Rideau, écrit ceci, un rideau magique tissé de légendes était suspendu devant le monde. Cervantes envoya Don Quichotte en voyage et déchira le rideau. Le monde s'ouvrit devant le chevalier errant dans toute la nudité comique de sa prose. Voilà ce qu'il demande. L'ouverture du monde, l'éclaircissement de l'existence. Et le moralisme de Victor Hugo lui est tout à fait étranger. Alors, Victor Hugo ne se réduit pas à ce moralisme, il n'empêche qu'il est très présent, notamment dans Les Misérables. Voilà d'ailleurs pourquoi, moi, je mets plus haut 93 que Les Misérables, qui est un roman génial, bien sûr. Parce que malgré sa grandiloquence, il y a plus de contradictions, de complexité, avec ces trois personnages de Gauvin, Simourdin et Lantenac. Voilà le problème, voyez, Victor Hugo... C'est...
Je vous comprends très bien. Je pense que là, Milan Kundera s'en tient à l'image Troisième République d'un Victor Hugo prédicateur, d'un Victor Hugo sermonneur, d'un Victor Hugo pontifiant. Et ça, je dirais que c'est peut-être la petite faiblesse de Victor Hugo sur son grand âge. Il a eu le tort d'avoir 80 ans, mais rappelons-nous qu'il faut du temps pour devenir jeune. Et donc, finalement, il faut pas réduire Victor Hugo, grand-papa avec son pot de confiture, qui vient chercher sa petite fille derrière son placard. Non, Victor Hugo est un raconteur. Victor Hugo raconte des histoires dans lesquelles il ne prend pas parti. Il laisse leur chance à tout le monde. C'est un tragique, Victor Hugo. C'est un tragique, c'est-à-dire que le tragique, c'est quand les types bien font des sales trucs et quand les méchants font des trucs pas mal. Les Misérables, c'est à prendre dans les deux sens. Hein. Les Misérables, c'est ceux qui peuvent exciter la pitié, mais c'est aussi ceux qui peuvent commettre des choses comme les Thénardier. Les Misérables n'est pas un plaidoyer unilatéral. Et Javert, c'est un flic, ouais. Mais quel beau flic! Et puis sa façon de se tuer à la fin est admirable. Donc, je crois pas qu'on puisse faire de Victor Hugo, je dirais, un pontife du moralisme. Non. Si c'était ça, ça m'intéresserait pas.
Alors, une deuxième objection. Dans l'entretien du Figaro, Régis Debray, vous dites qu'il anticipe, Victor Hugo, les conquêtes du 20e siècle.
Bah oui.
Mais alors là.
Bah oui.
Alors oui, alors là, ben justement.
Écoutez, vous allez pas nier ça, tout de même.
Si, je vais tiquer.
Je vais tiquer.
Enjolras, dans Les Misérables. Citoyen, le 19e siècle est grand, mais le 20e sera heureux. Alors, plus rien de semblable à une vieille histoire, on n'aura plus à craindre, comme aujourd'hui, une conquête, une invasion, et tous les brigandages du hasard dans la forêt des événements, on pourra presque dire, il n'y aura plus d'événements, on sera heureux. C'est une chose qu'on retrouve dans Actes et Paroles. Et Et ceci encore, ce qui a le plus vieilli dans Victor Hugo, c'est précisément son progressisme. On ne sent rien de tragique. Dans une conférence qu'il a publiée, c'est un discours d'ouverture pour le Congrès de la paix à Paris en 1849, il dit ceci, que les peuples se rapprochent. Grâce au chemin de fer, l'Europe bientôt ne sera pas plus grande qu'elle était la France au Moyen-Âge. Avant peu, l'homme parcourra la terre comme les dieux d'Homère parcouraient le ciel en trois pas. Encore quelques années et le fil électrique de la Concorde entourera le globe et étreindra le monde. On dit cela aujourd'hui d'Internet de la même manière et ça me fait penser à cette phrase géniale de Wittgenstein. Des hommes ont jugé qu'un roi pouvait faire pleuvoir. Aujourd'hui, on juge que la radio est un moyen de rapprochement des peuples. Eh bien, on a pensé ça des chemins de fer, on pense ça très fort d'Internet, de la vidéosphère dont vous avez si bien parlé, Régis Debray, et cet optimisme de Victor Hugo est quand même un peu problématique.
Oh, il est même idiot.
Oui, un peu ridicule.
Je ne crains pas de vous le dire. C'est vrai que Victor Hugo a épousé le credo de son temps, à savoir que là où il y aura des chemins de fer, il y aura plus de guerre, et là où il y aura des écoles, il y aura plus de prison. Bon, on sait très bien que c'est un peu court. Mais il faut recadrer ça dans une vision plus, je dirais, métaphysique ou cosmique chez Hugo. Hugo parie que Eros peut l'emporter sur Thanatos, c'est-à-dire Eros, les forces de l'union, les forces, je dirais, qui produisent du vivant par coagulation des atomes pour faire un corps. Donc il a cette idée que Eros va triompher de toutes les forces diaboliques de séparation, dissociation, etc. Bon, moi c'est une vision après tout que je peux admettre et moi je suis pas porté sur cette vision-là. Je crains que Eros ne liquidera jamais Thanatos et que plus il y a d'Eros, plus il y a de Thanatos. D'ailleurs, autrement dit, plus il y a de progrès matériel, plus il peut y avoir de régression, je dirais, d'ordre moral, voire même de repli sur l'ethnique, comme on le voit, sur le tribal. Donc je n'ai pas du tout, si vous voulez, cet optimisme hugolien. Et je vois que vous avez bien... Vous connaissez les défauts de la cuirasse hugolienne, c'est vrai. Et vous avez peut-être raison de les pointer. Mais honnêtement, fallait dire que c'est le petit Hugo, celui de cette grandiloquence. C'est le côté faible, c'est le côté pompeux du personnage, c'est le côté vieille barbe. Hein, bon, mais je trouve qu'il faut arracher Hugo à cette image-là. Il faut rentrer dans le teuf d'une création admirable qui embrasse l'érotique et le cosmique, qui embrasse le blanc et le noir, qui est vraiment une vision d'une, qui est une synthèse sensible. Pas une synthèse abstraite, mais une synthèse sensible au courant de tous les détails, de tous les accidents, de toutes les anicroches du vivant. Non, c'est, écoutez, c'est rare d'avoir à la fois un poète, un humoriste, un journaliste, un dramaturge, un barde, parce qu'il est tout ça à la fois. Je dirais même que c'est un ébéniste, parce que quand vous allez à Hauteville-la-Haute, vous voyez quelqu'un qui travaillait le bois. Hein. Bon, vous voyez quelqu'un qui composait l'architecture d'une maison. Enfin, c'est l'homme dont le clavier linguistique est sans égal dans l'histoire de la littérature française. Mais écoutez, sans égal. Il domine tous les dialectes, tous les patois. Le patois de la mer, il parle mieux qu'un marin de la mer. C'est vraiment, je dirais que c'est une... Encore une fois, Sainte-Beuve, pour une fois, a dit quelque chose qui est juste. Il a dit, il n'est pas des nôtres, il est né des dents d'un dragon. Bah, vous dites, comme ça, d'où on est un peu humain, trop humain. Lui, il est... autre chose, je dis pas surhumain, mais enfin, voilà, on respire avec lui le grand large, ça sent l'iode, ça sent le vent, ça sent le ciel, enfin c'est énorme, comme disait l'autre, énorme, enfin, comme disait, voilà. Donc, je crois qu'il faut au moins lui tirer son chapeau. Et puis, je trouve que, pour la France, ce serait pas mal dans la mesure où j'estime qu'elle a trop scandalisé, dans ces derniers temps. Donc, je voudrais un peu que...
Très bien.
On se dégage du tout à l'ego et qu'on se mette à penser nous et qu'on se mette à penser autre chose que moi je.
Alors, bon. Là, vous allez faire sur Stendhal tout de suite. Donc, votre plaidoyer pour Hugo était extrêmement convaincant. Sur Hugo, donc, je vous laisse très volontiers le dernier mot. Mais venons-en à Stendhal.
Ouais.
Alors, Stendhal, les Stendhaliens, enfin, est-ce que vraiment vous pensez que Lucien Levesne, la Chartreuse de Parme, le Rouge et Noir, c'est le tout à l'ego? Est-ce qu'on lit ça comme les romans de l'égotisme?
Non, ce serait partial. Je dis simplement que Stendhal me semble tout de même au début d'un grand tournant, qui était d'ailleurs celui de la monarchie de Juillet, dont Walter Benjamin, que vous aimez citer, a dit « c'est le moment où l'homme privé a accédé à la tribune de l'histoire ». Et c'est-à-dire, c'est le moment où, les hommes publics avaient une vie privée. C'est le moment où se crée la société des individus. Bon. Où l'individu, je dirais, l'emporte sur sa fonction, et où le « moi-je » l'emporte sur toute transcendance possible. Et il me semble que Stendhal est en ce sens très monarchie de Juillet, et que comme nous vivons une sorte de monarchie de Juillet bis, je trouve qu'il est en ce sens prémonitoire, si vous voulez. Mais il a trois dieux, Stendhal. Il a l'énergie, le plaisir et la vérité. Alors, la vérité, effectivement, il aime bien le naturel. Il n'aime pas la nature, comme Victor Hugo. Il n'aime pas l'empoulet, le grandiloquent, et c'est en quoi il est très contemporain, nous sommes tous d'accord. Il aime le plaisir. Et qu'est-ce que la France, sinon un certain hédonisme, l'hédonisme de la modération, si vous voulez. Et donc, il est très... Je dirais qu'il est plus contemporain, Stendhal. Il est plus français, en un sens, que Victor Hugo. Il est à la taille d'un pays où chacun essaye de tirer son épingle du jeu, voilà, et de réussir dans la carrière, disons. Stendhal, il met du plébéien dans la vie de château. On aime bien ça. Et il met, je dirais, de l'hédonisme dans la grimpette, c'est-à-dire dans accéder aux honneurs, aux emplois. Il met de l'allégresse dans l'ambition. On est tous d'accord, c'est plutôt sympathique, tout ça, à la fois ambitieux, et puis on voudrait rester un peu joyeux, décontracté. Il nous apporte tout ça, Stendhal. Et ça, je dirais que c'est une partie de la France. Ça fait partie, disons, d'un génie français.
Alors, l'hédonisme du Rouge et le Noir, je demande à voir. Julien Sorel finit sur l'échafaud.
Oui, mais il le prend tellement bien.
Oui, il le prend bien. Parce qu'il veut se dépasser lui-même. Et ça, c'est très intéressant. Il me semble quand même que vous faites porter le chapeau du narcissisme contemporain à Stendhal. Je dirais même, en parlant du tout à l'ego d'aujourd'hui, de la selfisation de l'Occident, de la généralisation des smartphones, j'irais jusqu'à dire, Régis Debray, que vous stendhalisez le dernier homme. Le dernier homme de Nietzsche, c'est, il dit « nous avons inventé le bonheur », mais ce que sont les derniers hommes, c'est qu'ils ne savent plus ce qu'est le dépassement de soi, comme l'a très bien commenté Pierre Manon. Ils ont pour seul propos de se maintenir par tous les moyens, même les plus artificiels, dans un état de contentement subjectif. Nous devons résister à toute tentation de nous dépasser nous-mêmes. Nous devons nous contenter de nous-mêmes. Voilà l'objectif. Voilà le commandement des derniers hommes. Mais c'est pas du tout les personnages de Stendhal. Et ce qu'il dit sur l'amour est quand même admirable. Moi, j'ai lu Adolescent, Lucien Levesne, qui est le roman que je préfère, du moins la première partie, et je suis tombé raide dingue de Madame de Chastelaire. C'est sans doute l'héroïne de roman que j'ai le plus aimé dans ma vie. Et Julien Sorel est obsédé par l'idée de se dépasser lui-même. Donc, voilà. Est-ce que c'est pas un scandale de faire de Stendhal le premier des derniers hommes?
D'abord, écoutez, nous partageons les mêmes amours.
Ah bon?
Oui, mais moi, je lui donne un autre nom. Moi, j'étais amoureux de Mathilde de la Mole.
Ah oui, moi aussi. Elle était tellement capricieuse que je l'aimais.
Mathilde de la Mole, c'est-à-dire d'Antonella Lualdi, dans le film Le Rouge et le Noir. Vous étiez trop jeune pour voir ce film. C'est un film des années 50. Et Antonella Lualdi a toujours été mon idéal féminin. Donc nous sommes d'accord. Nous aimons être amoureux, surtout dans une belle décapotable, avec beaucoup d'esprit, en buvant un peu de champagne, etc. Mais c'est vrai que il y a chez Stendhal un culte de l'amour, même si sa dissertation sur de l'amour est totalement ennuyeuse et n'a pas grand intérêt. C'est une dissertation d'idéologue, puisqu'il se réclamait de l'idéologie. C'est très mathématique. Bon. Mais c'est vrai que ce goût de se dépasser chez Stendhal, on se dépasse parce qu'on s'est fait une très haute image de soi-même. Et on essaye de rattraper un peu cet idéal du moi, si vous voulez. Mais c'est très, tout de même, c'est très enfermé, soit dans le couple, dans un amour impossible, soit dans une sorte de je dirais, de course chevaleresque où il n'y a pas d'autre enjeu que, en quelque sorte, de se prouver à soi-même qu'on a du caractère. Si je pense qu'il y a tout de même ce tournant égotique chez Stendhal, c'est que les personnages qu'il campe et que nous aimons sont tous des individus hors sol, en apesanteur, je dirais détachés du cours de l'histoire, détachés des arrière-pays. Ce sont vraiment, je dirais, des non pas des bulles de savon, bien entendu, mais ce sont des individus qui ne se pensent pas membres de quelque chose, qui ne se pensent pas comme membres d'un pays ou d'une cause. Ce sont des individus pour qui la réussite, c'est d'être pleinement ce qu'ils ont rêvé d'être. Alors, nous avons tous été comme ça. Il faut un peu d'idéal du moi pour se surpasser, d'accord. Mais je vois pas où la connexion de ce moi et d'un nous possible se fait. Et je crois que nous avons aujourd'hui besoin, disons, d'insérer notre l'amour que nous avons de nous-mêmes, l'amour que chacun a de soi, dans une sorte de, comment dirais-je, de solidarité, de fraternité, j'allais même dire de transcendance, qui est celle d'une cause, d'un but qui nous soit commun. Il y a peu de commun chez Stendhal, oui. Aux deux sens du mot. Hein. Il n'aime pas le commun, il déteste le populo. Bon.
Il est très républicain, cela dit.
De détester le populo.
Non, il est républicain, Stendhal. Non, il est.
Oui,
il est
républicain, tout en avouant qu'au fond, il se plaît beaucoup plus avec les légitimistes, parce qu'il trouve les républicains un peu emmerdants, un peu trop sérieux. Mais il y a rien de commun. Et d'ailleurs, je dirais que le rien de commun, ça pourrait être la devise de Fabrice, ça pourrait être la devise de Lucien de Lohen, la fameuse devise très noble, rien de commun. Moi, j'aime qu'il y ait un peu de commun chez les gens.
Alors, peut-être que ça tient aussi à l'influence, au retentissement, au bouleversement créé par Napoléon.
Oui, c'est vrai.
Parce que Stefan Zweig en parle admirablement dans Le Monde d'hier. Mais justement, lui, en faisant référence à Balzac. Balzac, écrit Stefan Zweig, a exposé de façon magistrale comment l'exemple de Napoléon a galvanisé en France toute une génération. L'ascension éblouissante du petit lieutenant Bonaparte, élevé à la dignité d'empereur du monde, signifiait pour lui non seulement le triomphe d'une personne, mais une victoire de l'idée de jeunesse. Qu'il ne fut pas nécessaire d'être né prince pour acquérir tôt la puissance, qu'on eût pu être issu d'une famille modeste et même pauvre et être général à 24 ans, à 30, souverain de la France et bientôt après du monde entier, ce succès unique arrachait des centaines de jeunes gens à leur petit métier et à leur ville de province.
Non, c'est très
comme
juste.
Ça qui s'est passé en France et même dans toute l'Europe.
Mais c'est très juste ce que vous dites. C'est vrai qu'aussi bien Chateaubriand qu'Alfred de Musset que Stendhal sont impensables, évidemment, sans ce grand coup de pied au cul qu'a été Napoléon, qui est un peu le modèle du self-made man, si j'ose dire, pour parler comme aujourd'hui il faut parler. C'est même l'exemple d'un one-man show perpétuel qui dure 15 ans. Donc je comprends qu'on soit un peu fasciné par cette idée qu'on peut partir de presque rien et devenir quelqu'un, et même devenir presque tout. Donc c'est vrai vous avez tout à fait raison, c'est vrai que ce sont tous, au fond, tous ces écrivains dont nous parlons, et Stendhal en particulier, et pourquoi pas Victor Hugo d'ailleurs, ce sont des gens qui veulent rattraper Napoléon. en faisant de la littérature. C'était à un moment où on pouvait plus tellement faire de politique, mais on faisait de la politique en faisant de la littérature, ce que Chateaubriand a fait. Il est parvenu à la politique par la littérature, avec toujours cette ambition, effectivement. Mais est-ce qu'il n'y avait pas chez Napoléon tout de même un culte du moi un peu excessif? Est-ce qu'il n'y avait pas une manière, je dirais, de voir l'Europe comme une affaire de famille? C'est tout de même un peu court. Pouvoir placer ses frères, sa sœur, autrement dit. C'est d'ailleurs clair. Une remarque que De Gaulle fait parfois sur Napoléon. Il le trouve un peu mesquin, Napoléon, enfin, je veux dire, un peu famille-famille, quoi. Hein. Bon.
Pourvu que ça dure,
disait-il. Pourvu que ça dure. C'est-à-dire une formidable ambition personnelle qui se sert un peu de la nation pour s'accomplir elle-même. Mais la nation, ou même, je dirais, l'humain ou l'Europe n'est pas le but, quoi. C'est un moyen. Et je me méfie des gens qui font des grandes causes, des moyens pour affirmer leur petit moi. Voilà.
Oui, c'est vrai. Mais, à un moment donné, vous citez cette phrase de Saint-Saëns, « Voici ma politique, j'aime la musique, la peinture, un bon livre est un événement pour moi. » Et ça m'a fait penser à des vers de La Fontaine, dont je ne me souviens pas exactement. « J'aime les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. » Donc là, un petit lien peut-être tissé entre Stendhal et La Fontaine, qui pourrait très bien figurer parmi nos écrivains nationaux.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Disons, le plaisir exigeant.
Oui, le plaisir exigeant, voilà.
C'est un peu, au fond, ce que Stendhal nous rappelle. C'est pourquoi je dis que Stendhal est une composante du génie français. Hein. Je veux pas, je dirais, semer la zizanie dans la famille. Il y a chacun ses façons de faire, ses façons d'être. Simplement, je trouve que conjecture que nous avons besoin de Victor Hugo en ce moment plus que de Stendhal. C'est tout. Je vous aurais peut-être pas dit ça en 1914, parce que là, il fallait sauver son camp à soi pour pas tomber dans les... Si vous voulez, face au totalitaire, nous sommes Stendhal. Face à l'hyper-individualisme, nous devons être un peu Hugo. Voilà. Donc, je crois qu'il faut prendre en compte le moment où nous parlons. Je n'aurais pas fait le même livre, si vous voulez... en 1917, si j'avais lu Romain Rolland, hein, j'aurais dit, attendez, il n'y a pas que la tribu. Bon, il y a autre chose. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, même si Hugo, c'est drôle, je confonds les deux. Hugo a une situation. Hugo, c'est des stations de métro, c'est des boulevards, c'est des statues, c'est des musées. Mais je trouve que, étrangement, que Stendhal a aujourd'hui plus de présence, si vous voulez. Il est plus proche de nous. Il est plus vivant, il est moins statifié. Et je me suis interrogé sur ce qui fait qu'aujourd'hui, Stendhal est regagné en jeunesse, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Il a quelque chose de prime sautier, de spontané, qui le rend un peu plus contemporain. Mais je crois que c'est une vision étroite de la France. C'est une vision, certes, je dirais... estimable, c'est une vision stimulante. Je ne peux pas du tout nier la fraîcheur de Stendhal, son côté, son incrédulité joyeuse, enfin voilà. Mais tout de même, rappelons-nous qu'il y a le cosmos, rappelons-nous qu'il y a une histoire de l'humanité, rappelons-nous qu'il y a que la Terre avec un grand T existe, le ciel et l'océan et tout ça. Pour les poumons, c'est pas mauvais, non? On respire, non?
Alors, ce que je reprochais personnellement à Stendhal, c'est son mépris permanent de Chateaubriand et des Mémoires d'Outre-Tombe. Parce que franchement, les Mémoires d'Outre-Tombe...
C'est quelque chose qu'il ne comprend pas.
Voilà, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas.
La grandeur, il l'appelle grandiloquence.
Oui, c'est vrai.
Bah écoutez, c'est embêtant.
Alors, d'un autre côté, un dernier mot sur Stendhal. Vous dites, toujours dans votre entretien au Figaro, Stendhal, c'est aimer mais pas trop, restons sages. Alors d'abord, Julien Sorel n'est pas sage, et puis quand même, c'est un analyste de l'amour hors pair. Il y a cette phrase que tout le monde connaît, Mosca, parlant de Fabrice et de Vincent Severina, « Si le mot d'amour vient à être prononcé entre eux, je suis perdu. » Oui, tant que le mot d'amour n'est pas prononcé, c'est une tendresse un peu folle, mais la déclaration est aussi, « je t'aime » est aussi un serment, donc on devient prisonnier de serment, et Sartre le dit très bien dans « L'idiot de la famille », on s'aliène à cette tâche infinie pour cette fin dernière, la fidélité à soi. Mais c'est un exemple parmi d'autres de l'extrême finesse de Stendhal pour ce qui concerne l'amour. Et c'est énorme quand même. On peut demander ça aussi à la littérature.
Bien sûr, vous avez raison. Il y a chez Stendhal une finesse incomparable. Je dirais que il contribue au bonheur intérieur brut du français moyen. C'est-à-dire qu'il nous apprend une certaine distance envers nous-mêmes, d'où ces monologues intérieurs constants. Disons que Stendhal est un grand psychologue et Victor Hugo est un grand mythologue. C'est-à-dire qu'il, avec le réel, il fait de la légende. Avec l'individu, il voit un morceau d'humanité. Avec le peuple de Paris, voit le peuple avec un grand P. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a une capacité de transfigurer, si vous voulez. Une capacité de, je dirais, de traverser le réel pour aller vers ce qui est plus que le réel, que je trouve très, très émouvant, très instructif. Alors, je ne dis pas qu'il y a... Oui, chez Stendhal, il y a du soleil et du champagne et de la finesse. Mais chez Victor Hugo, il y a aussi le sombre, le violent. Il peut aller de l'un à l'autre parce qu'au fond, Hugo, c'est aussi l'homme du calembour, c'est aussi l'homme qui rit.
Ah oui.
Hein, donc, je veux dire que on s'ennuie pas avec.
Ah non.
On peut s'ennuyer avec le tribun du peuple, etc. Tout ce que vous avez rappelé, vous avez raison. Mais il faut aller envoyer promener cette statue, sans faire tout de même comme les Allemands, hein, qui ont liquidé.
Qui ont fait quoi?
Qui ont mis à bas toutes les statues de Victor Hugo pendant l'occupation, hein, parce que Pétain n'aimait pas Victor Hugo, Maurras non plus. Alors que Maurras aimait beaucoup Stendhal. Permettez-moi de vous l'apprendre.
Mitterrand aussi.
Je suis un peu... Ah oui, Mitterrand aussi, ça c'est vrai. Mais je vais vous dire, qui n'aime pas Stendhal? Moi, c'est ça ce qui m'a frappé. C'est l'unanimité soviétique autour de Stendhal qui unit l'extrême droite et l'extrême gauche. Et je me suis dit, tiens, il y a là quelque chose de... peut-être de salutaire, d'un peu étrange. Et j'ai compris qu'il y avait derrière Stendhal une sorte d'ethnicisme, si vous voulez, de nationalisme. On aimerait tous être Stendhal, on s'identifie à lui, c'est l'image du Gaulois qui est à la fois insolent, pétillant, plein d'esprit. On est tous Stendhaliens. Je dis, soyons en partie Stendhaliens, mettons, essayons d'être un peu hugoliens. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur
ce
cheminement possible?
Enfin, bien sûr, alors, cela dit, moi j'aime beaucoup Stendhal, mais je n'en aurais pas fait l'écrivain national, j'aurais choisi Proust, éventuellement, La Fontaine, ou le couple, car j'aime beaucoup l'histoire de couple, Montaigne-Pascal.
Mais Proust est trop Jockey Club pour être national, et La Fontaine est trop école secondaire.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que Proust a eu le Goncourt en 1919 contre Dorgelès. Ça, c'est quand même la preuve que la France était alors, même après la guerre, une patrie littéraire. Et ma question... C'est l'est-elle encore? Parce que je me demande si notre beau débat n'est pas caduque, notre querelle un peu dépassée. J'ai sous les yeux une tribune qui est parue dans Le Monde au mois d'août. Et elle ne m'a pas échappé. Un collectif de 14 acteurs des cultures urbaines écrit « Inspirons-nous de la culture hip-hop pour faire société ». La langue que parlent les cultures urbaines n'est pas exactement économique. Et académique, mais au moins, c'est une langue vivante. La rue, c'est parfois bruyant, parfois même violent, mais c'est là que ça se passe. Alors quand ils disent académique, ça vaut autant pour vous que pour moi, pour Suran, pour Victor Hugo, pour Stendhal, pour Flaubert et pour Proust. évidemment, pour Proust. Bon, et nous, je veux dire, là, peut-on dire c'est que la France soit encore une patrie littéraire? Pourra-t-on demain faire société avec les humanités et notamment avec la littérature française, Régis Debray?
C'est tout l'enjeu. Et c'est pourquoi je réclame un référendum d'initiative culturelle pour soumettre aux Français cette... Mais vous avez raison, ça ne vous a pas échappé, mais nous n'échappons pas au monde, cher ami.
Non,
c'est... Nous y sommes exposés, et ce que vous avez lu là est effectivement aujourd'hui, je dirais, un abandon, une lâcheté. Moi, je crois, si vous voulez, que on a connu la fin des paysans, si on connaît la fin des écrivains, c'est vraiment foutu. Parce que je crois que les écrivains sont ceux, au fond, ce sont, il fallait dire, les paysans d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ceux qui, au fond, nous rattachent à une histoire, à un sol, nous rattachent, je dirais, à une continuité, nous rattachent, au fond, à ce qui fait l'âme d'un pays. Il faut pas la séparer de son corps, cette âme. Cette âme, c'est une géographie. C'est donc, écoutez, c'est vrai que l'agriculture a foutu le camp, c'est devenu une industrie. Si la littérature fout le camp et devient à son tour une industrie, c'est-à-dire la communication, on est vraiment fichu, parce qu'alors on devient des zombies, hein, vous et moi. C'est pourquoi je trouve que Emmanuel Macron aura raison d'appeler un référendum sur la question Stendhal-Hugo. Car à travers chacun d'eux, c'est une façon de se voir, c'est une façon de se représenter la France, et j'espère que Hugo l'emportera,
mais on n'a pas le droit de mettre un autre nom?
Si, bien sûr.
Ah, quand même.
Non, attendez, moi j'étais en face du résultat, oui. D'une petite enquête, il y avait deux noms, comme à la fin d'un premier tour électoral, vous avez à choisir entre Dupont et Durand. Bon, c'est vrai qu'on aurait dû parler de Molière, de Balzac, etc. Mais il se trouve que ça s'est présenté comme ça, et au fond, c'est pas bête, parce qu'au fond, nous sommes l'un et l'autre, nous sommes à la fois Stendhal et Hugo. C'est le génie de la France, c'est le génie de Hugo plus particulièrement que d'unir les contraires, et c'est le génie de la France que d'unir Stendhal et Victor Hugo. Donc au fond, il faudra bien choisir. Malheureusement, comme vous votez au deuxième tour, hein, vous n'êtes pas d'accord avec aucun des deux, mais vous dire quel est le moins mauvais. Bon.
Ce serait pas mal des primaires avec 10 candidats, ouais, derrière leur petit pupitre, et puis vous seriez Hugo, moi
ça,
je serais les coupes, c'est-à-dire soit Montaigne et Pascal, soit Corneille et Racine. J'aime bien que les Français soient Corneille et Racine. Moi je suis très Corneille et Racine. Et comme ça, on aurait 10 minutes pour parler, devant, il y aurait Léa Salamé qui nous interrogerait les uns après les autres, et puis ensuite les Français se prononceraient.
Alors si on a 10 minutes, je suis d'accord, j'ai peur qu'on ait 2 minutes.
Et oui, ça c'est vrai.
Ce serait dramatique.
Voilà.
Mais en tout cas, faisons cet effectivement. Il faut demander à votre ami Emmanuel Macron, avant de lancer ce référendum, d'avoir de vrais
débats. Vous avez dit votre ami qui?
Emmanuel Macron.
Vous avez dit votre ami Emmanuel Macron.
Oui, parce que je vous ai entendu ce matin, vous parliez de votre appel téléphonique, et il a bien fait de vous téléphoner.
Bah oui.
Bon, il a bien fait de vous téléphoner. Mais bon, je ne le connais pas.
C'est pas mon ami.
Non, bien sûr.
Ne voyez pas
dans mon allusion à vos relations sociales, et qui sont éminentes, une quelconque critique.
J'aimerais beaucoup avoir un
appel de ce jeune président plein
d'esprit. Faites-vous agresser ou simuler une agression.
Alors, écoutez, j'y ai pensé, mais oui, je n'ai pas eu cette chance ou cette malchance.
Cette chance inouïe.
Écoutez, c'est nous sommes en train de tenir des propos,
mon frère Alain,
qui vont nous exposer. Qui vont nous exposer à toutes sortes d'attaques, vous en avez l'habitude,
oui.
Moi aussi.
Voilà.
Ça s'est un peu calmé en ce qui me concerne. À vous, ça s'est un peu exacerbé, mais ça va revenir
bien sûr.
À l'estime qu'on vous doit.
Alors, je vous rappelle que nous avons été mis dans le même sac par le candidat Macron, parce que nous l'avions critiqué les uns et les autres, et il avait dit que vous, moi, Badiou, curieusement, dans la même liste, Michel Onfray, je crois, nous étions des has-beens et qu'il fallait se tourner vers Jürgen Habermas parce que là était la vraie pensée. Je pense moi-même qu'il a un peu changé depuis lors, mais c'est un tout autre sujet. Cela étant, vous macronisez un peu Stendhal. Hein?
Non, je voudrais pas. je voudrais pas céder à cette facilité polémique. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette façon de politiser les affaires. Mais je crois que le grand problème d'aujourd'hui, c'est ne pas être habermassien, c'est-à-dire ne pas défendre le droit contre le peuple, parce que défendez le droit contre le peuple, vous obtenez le peuple sans droit.
Et la patrie constitutionnelle, le patriotisme constitutionnel, c'est un patriotisme sans chair.
Exactement. Et là où il n'y a pas de chair, il n'y a pas d'âme.
Exactement.
Et donc, méfions-nous de cette sorte de va-et-vient, de ce cercle vicieux entre le droit sans le peuple et le peuple sans le droit. C'est pourquoi, au fond, nous avons peut-être un chemin commun.
Ah ben là, oui.
Vous et moi, mais enfin, je ne veux pas vous compromettre, mon cher.
Non. Ni moi, vous. Parce que, franchement, vos amis ne vont pas aimer ça.
Oh ben, les vôtres non plus. Bref. Écoutez, donc, vive le référendum d'initiative citoyenne qui nous fera enfin choisir un écrivain national pour surmonter cette bizarrerie, c'est que nous n'en avons pas, nous sommes le seul pays d'Europe.
Parce que nous en avons trop.
Alors, c'est
Cervantes,
effectivement...
Shakespeare,
oui, nous en avons trop. Nous avons trop, malheureusement, il y a trop de clients possibles, mais il faudra bien se décider un jour.
Mais... Je suis heureux d'apprendre que les Gilets jaunes militent aujourd'hui pour un référendum d'initiative citoyenne sur la question de savoir quel est notre écrivain national. Ça me réconcilie complètement avec eux. En tout cas, Régis Debray, je vous remercie pour cette conversation, très éclairante je crois. Je rappelle le titre de votre livre, Du génie français, il est publié aux éditions Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Tom Hubenstock et François Connac. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.